Grand angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient, gros plan sur la crise sécuritaire au Mali. Le pays est la cible d'attaque d'une ampleur et d'une coordination inédite, attaque menée par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans affiliés à Al-Qaïda et le Front de Libération de l'Azawad. C'est un groupe composé d'indépendantistes du nord du Mali. Les civils vivent aussi dans la terreur des crimes de l'armée et des Russes. La situation dans le pays est plus incertaine que jamais depuis la fin avril. Notre invité Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, spécialiste de la région. Est-ce que vous, tout simplement, vous pouvez nous faire part du caractère inédit et particulièrement incertain de cette crise au Mali?
Incertitude, oui, bien sûr, avec un ultimatum qui a été posé par les deux mouvements que vous citiez, le Front de Libération pour l'Azawad ou le Front de Libération de l'Azawad au nord du pays, qui a repris possession de la ville de Kidal et dont on dit qu'il serait sur le point de prendre possession de la ville de Sévaré, et puis au sud, autour de Bamako, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou mouvement, organisation liée à Al-Qaïda. Alors, incertitude, évidemment, pesée sur la population malienne et plus précisément sur les autorités maliennes. Si on se remet dans un passé un peu plus long, en 2012-2013, cette coagulation entre un mouvement irrédentiste Touareg et un mouvement djihadiste était exactement la même. À l'époque, le Front de Libération de l'Azawad s'appelait le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, et à l'époque, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans était morcelé dans un certain nombre d'organisations qui avaient toutes prêté déjà allégeance à Al-Qaïda. Donc, d'une certaine façon, on y a une sorte de retour sur un agenda dans lequel les groupes djihadistes, ou narco-djihadistes plutôt, et les organisations irrédentistes de l'Azawad, réclamant donc une séparation avec l'État central malien, se sont coalisés. Ce qui est nouveau, c'est l'amplitude que désormais, mais l'idée selon laquelle une partie du territoire malien échappe bel et bien aux autorités issues du coup d'État militaire de 2020, avec une autre particularité nouvelle, c'est l'éparpillement, à savoir que ces groupes armés djihadistes agissent non seulement au Mali, mais agissent également au Niger, au Burkina Faso, avec une autre nouveauté, si j'ose le dire ainsi, une superposition ou une dualisation avec d'un côté des mouvements qui sont affiliés à Al-Qaïda et d'autres qui sont affiliés à l'État islamique, qui n'ont pas forcément les mêmes agendas. En tout cas, l'État islamique dans le Grand Sahara n'était pas à la manœuvre dans les opérations ayant frappé à la fois Bamako et les villes du nord du Mali.
Les forces armées maliennes soutenues par le groupe l'Africa Corse, le groupe qui lui-même commet des exactions.
Otan Wagner était une société militaire privée qui officiellement n'avait pas de contact avec le ministère de la Défense, autant le groupe paramilitaire de l'Africa Corps est une émanation des services de renseignement russes, avec une forme de laisse encore plus courte qui conforte l'idée que la Russie était plus à la manœuvre aujourd'hui qu'elle ne fut par le passé. Mais vous avez raison, on a pu constater que les troupes russes qui commettent des exactions, cette fois-ci, n'ont pas beaucoup aidé les forces maliennes, puisqu'on a la preuve avec des images de contingents des supplétifs, donc des sous-traitants russes, qui quittaient les garnisons de Kidal et de Sévaré sans mener le combat contre, dont ils étaient pourtant chargés d'empêcher de nuire.
Voilà, hein, ces groupes qui étaient affiliés aux autorités maliennes, ça c'est important.
Oui, l'Africa Corps avait été sollicité, avait été recruté par les autorités maliennes, elles étaient donc complémentaires donc de l'action menée par les FAMA, les forces armées maliennes, dont le but était évidemment de recouvrer la totalité de l'intégrité territoriale du Mali qui avait été depuis quasiment 2012-2013 remise en cause par ces mêmes groupes avec des infiltrations ou avec une réalité plus ou moins approfondie.
Le Mali a-t-il commis une erreur majeure en s'appuyant sur la Russie?
Disons que le Mali n'a pas réussi, enfin, les autorités maliennes issues du coup d'État militaire de 2020, en chassant ou en demandant plus poliment aux autorités françaises, aux forces militaires françaises, de quitter le territoire en 2022, n'aura pas abouti à un résultat plus probant en ayant recours à la sous-traitance russe hier et aujourd'hui à une sous-traitance turque, car désormais il y a aussi une société militaire privée qui s'appelle Sadat, qui dépend directement du service de renseignement turc, qui agit aussi en concomitance avec la présence des forces armées supplétives russe.
Cette situation sécuritaire au Mali suscite la crainte des voisins du pays. Le Burkina Faso, le Niger n'ont pas envoyé de militaires pour soutenir le régime de Bamako.
Ça, c'est la deuxième surprise, puisque les autorités putschistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, en choisissant une séquence différente de l'intégration régionale et de la coopération à travers la CEDEAO, en créant à partir de 2023 une structure qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel et en proposant il y a 6 mois une force conjointe forte de 5000 hommes composée de troupes du Burkina, du Mali et du Niger, qui évidemment aurait pu et aurait dû prêter main forte aux autorités maliennes. Il n'en a rien été. La preuve en est que et également ces forces armées du Niger et du Burkina Faso sont également en danger et d'une certaine manière.
Ce que vous nous dites, c'est que la chute d'un régime, celui du régime malien, pourrait précipiter celle des autres, celui du Burkina et du Niger.
Preuve en est que depuis l'encerclement de Bamako, l'ultimatum lancé par le groupe de soutien à l'islam musulman, avec un contrôle de plus en plus ferme sur l'accessibilité des hydrocarbures dans la ville de Bamako, il y a eu des exactions et des attaques qui ont été menées au Niger, occasionnant plus d'une 60aine de morts, qui ont eu lieu au nord du Ghana, confirmant que ces groupes armés, alors là, non seulement l'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, ou autrement appelé le groupe de soutien à l'islam aux musulmans au Mali, mais également à l'État islamique dans le Grand Sahara, qui ont le même agenda, c'est-à-dire de l'éparpillement stratégique visant à contrôler davantage que les 3 pays précédemment cités, mais également pour être de plus en plus présents dans le pays riverain du golfe de Guinée.
Cette situation au Mali, quelles conséquences pour la Russie qui appuie ce pays?
Alors, la Russie appuie modérément ce pays. Là aussi, c'est une demi-surprise. Le président Vladimir Poutine a certes refusé de répondre à l'ultimatum de ses groupes armés enjoignant la Russie de quitter le territoire malien où les forces paramilitaires plus directement attachés au service de renseignement de l'armée, le GRU, évidemment, ont montré leur incapacité à obtenir le résultat qui pourtant était prôné comme une réussite face à ce qu'était l'échec de la France. On a un peu trop rapidement conclu à l'idée que les forces françaises avaient été chassées par les autorités maliennes et remplacées par la Russie, et que la Russie obtiendrait de meilleurs résultats, c'est-à-dire qu'elle éradiquerait ou qu'elle limiterait l'étranglement donc que ces groupes armés exercent sur les autorités maliennes. Il n'en est rien, puisque désormais les attentats ont eu lieu directement à proximité du centre-ville de Bamako, sur l'aéroport, sur la base militaire de Kati. Le général Sadio Camara a été tué à son domicile dans un espace ou dans un environnement hautement sécurisé. On comprend donc désormais que Bamako pourrait être prise ou pourrait tomber dans l'escarcelle des groupes armés terroristes, mais qui n'en ont pas forcément l'intérêt. Ils n'en ont pas l'intérêt car ils savent très bien qu'ils ne pourront pas tenir le pays.
Cela alors que la France était présente justement pour combattre les djihadistes et ne commettait pas d'exactions sur le peuple malien. Ça, c'est important de le souligner aussi.
De le rappeler, et puis surtout l'autre élément qui soutenait la présence française, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, en Mauritanie, était visé à aider les pays précités à lutter eux-mêmes avec efficacité contre ces djihadistes et éviter évidemment qu'il y ait une forme de radicalisation qui aboutisse à un scénario à la Taliban où ce seraient des djihadistes qui occuperaient le pouvoir à Bamako.
Et ça, c'est une possibilité aujourd'hui au Mali, à Bamako?
C'est une crainte. Pour l'instant, les djihadistes n'ont pas forcément l'intérêt. À partir du moment où il y a 2 agendas dans ce qui s'est passé il y a quelques semaines, un agenda des irrédentistes Touareg qui visait à libérer Kidal, ce qu'ils ont fait, à proclamer unilatéralement de nouveau, comme ils l'avaient fait régulièrement en 91 puis en 2012, l'autonomie et l'indépendance de la Zawad. Donc on comprend quand même que l'agenda est avant tout entre les mains des groupes djihadistes.
Merci Emmanuel Dupuis.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes spécialiste de la région et vous présidez l'IPSE. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.